Bonjour à chacun. Content de vous voir encore une fois ce matin. Content d'être avec vous, d'ouvrir la parole avec vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un chrétien qui vienne vous voir puis vous dire « Ah, tu portes des pantalons à l'église? » Pour une femme peut-être. « Ça serait mieux si tu portais une jupe ou une robe. » Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vous dit « Ah, est-ce que vous avez une télé chez vous? » Ah, moi, je pense qu'il n'y a aucun chrétien qui devrait avoir de télé chez eux. Il n'y a rien que du mauvais stock, ou il n'y a pas juste du mauvais stock, mais je pense que tous les chrétiens, ils ne devraient pas avoir de télé. Les chrétiens vraiment spirituels, ils n'ont pas de télévision chez eux. Et peut-être que vous avez entendu d'autres exemples. Moi, quand j'ai grandi, c'était très important de s'habiller propre le dimanche. Et c'était pas bien, on pouvait pas aller en jeans à l'église. Alors ça, on pouvait pas faire ça, parce que on vient se présenter en assemblée devant Dieu, on veut s'habiller propre. OK? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'église qui parle dans la Bible qui parle de s'habiller propre pour aller à l'église le dimanche? Non. Puis on a des passages aussi qui nous disent que le Seigneur regarde au cœur, que l'homme regarde à ce qui est extérieur, mais le Seigneur regarde au cœur. Et peut-être que la liste pourrait être longue de certaines des choses que vous avez entendues, que vous vous êtes fait dire. Peut-être qu'on n'a pas explicitement prêché de l'avant, mais que dans la culture d'Église dans laquelle vous avez grandi, où vous avez été, il y a certaines choses qu'on ne faisait pas, ou il y a certaines choses qu'on devait faire. Et des choses que l'appui biblique, c'était... peut-être un petit peu ce principe-là, c'est un bon principe qu'on veut, on veut honorer le Seigneur. Par exemple, comment on s'habille, on veut... Et le Seigneur, c'est le maître de l'univers. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas vraiment de posture dans laquelle on pourrait même se présenter de façon sainte devant lui. On vient de chanter, c'est par le sang de Jésus qu'on peut s'approcher de Dieu. Mais on reconnaît sa majesté, sa grandeur, sa splendeur. Donc, on ne veut pas s'habiller en pyjama comme si on vient de sortir du lit. On veut montrer par nos vêtements un certain respect pour la gloire et la majesté de Dieu. Cependant, ce n'est pas nécessaire de s'habiller propre ou même d'avoir des beaux cheveux. Puis si quelqu'un rentre, puis qui n'est pas habillé comme nous, il n'a pas les cheveux bien maquillés, etc., ben là, la prochaine fois, à notre église ici, c'est comme ça qu'on fait. Et peut-être que vous avez été dans certaines églises où c'était une lutte. Et peut-être que nous, on a nos propres petites lois ou nos principes de clique. Souvent, on est aveugle. On dit, ben non, c'est important ça. C'est important. C'est quoi le nom souvent qu'on va taxer ce genre de principe-là, de loi-là? Comment on appelle ça? Du légalisme. C'est ça. Bon, donc, du légalisme. Donc, les légalistes, c'est toujours les autres, c'est jamais nous. Mais on va voir aujourd'hui qu'à l'église de Colosse, il y avait du légalisme. Mais pas à propos de comment on s'habillait ou de comment on faisait nos cheveux, mais à propos de d'autres choses, à propos de respecter certaines lois ou à propos de qu'est-ce qu'on avait le droit de manger et de boire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas manger ou boire. La façon de respecter le sabbat, on a parlé la semaine passée de la circoncision. Alors, y avait un enseignement, il y avait des influences à l'église de Colosse, des gens qui enseignaient ou qui propageaient qu'on devait observer ces choses-là. Si, pour être vraiment chrétien ou un chrétien mûr, spirituel, allait observer ces choses-là. Et les autres étaient des chrétiens plus charnels. Cependant, comment est-ce que Paul a géré avec ça? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Le Seigneur nous a donné sa parole pour nous donner des directives. Il nous a donné des commandements. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » Donc, on a reçu des commandements du Seigneur qu'on veut lui obéir par amour, par reconnaissance. Cependant, il y a des choses qu'on peut rajouter par-dessus la Bible. Et là, on est en train de tomber dans du légalisme. Donc, on va voir de quoi il était question à Colosse, puis en quoi est-ce que ça peut s'appliquer à nous. Même si on n'a pas vraiment d'influence dans nos milieux chrétiens, que les messieurs devraient se faire circoncire. Du moins en Amérique du Nord, c'est pas trop une pression. Les garçons devraient les faire circoncire. Puis c'est pas qu'il y a rien de mal à faire circoncire son enfant, mais d'en faire une genre de loi chrétienne. Ah, là, Paul, il dit non, on n'est plus dans la bonne catégorie. Alors, la semaine passée, on parlait de Christ dans sa plénitude, qui était le remède à l'erreur. On a vu qu'on avait tout pleinement en Jésus-Christ, qu'on avait été circoncis avec Jésus, qu'on était mort à notre ancienne vie, ressuscité avec Jésus, qu'on était pardonné nos péchés en lui et qu'on y était triomphant avec lui de toutes les forces spirituelles, qu'on n'avait pas besoin de autre chose par-dessus. Christ est au centre et doit être au centre de la vie du chrétien et de la vie de l'Église. Donc aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, aussi connu sous le nom de simplement Colossiens. Colossiens chapitre 2. On va lire les versets 16 à 23, qui sont ce qu'on va couvrir ce matin ensemble. Colossiens 2, 16 à 23. Je lis la parole de Dieu. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Amen. Prions maintenant. Seigneur, c'est un texte assez dense qu'on a ce matin à étudier. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée, que toute écriture est inspirée de toi, utile pour nous enseigner, nous reprendre, nous éduquer dans la justice. Seigneur, on veut te prier que tu nous éclaires par ce texte-là, que tu nous remplisses de ta sagesse, de la connaissance, de ton intelligence, Seigneur, pour bien connaître ta volonté, pour bien saisir et établir et être fondé en Jésus-Christ comme suprême et suffisant dans nos vies. Glorifie-toi, Seigneur, par ces paroles que je vais prononcer, par notre écoute, par notre mise en pratique de ta parole. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, découper notre passage en trois sections ce matin. La première, versets 16 et 17, on va parler du rôle de l'ancienne alliance. Ensuite, versets 18 et 19, on va parler du mysticisme, qui était une des tendances qu'il y avait à Colosse. Oui, il y avait une tendance légaliste, probablement mélangée avec du mysticisme. Donc, on va voir de quoi il est question dans ces versets-là. Et est-ce que c'est quelque chose qui nous guette, ça? De quelle façon? Puis ensuite, on va voir les versets 20 à 23. On va étudier particulièrement le danger du légalisme et de quelle façon ça peut nous affecter. aujourd'hui, ici au Canada. Alors, tout d'abord, le rôle de l'Ancienne Alliance. Paul commence, il vient de parler de Jésus qui est suprême, que l'union à Jésus a donné tout ce dont on avait besoin. Il dit dans Colossiens 2, 10, qui est une des petites phrases les plus belles de toute cette épître aux Colossiens, il dit « Vous avez tout pleinement en lui. » Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Si nous, quoi que ce soit que nous cherchions, l'absolu de ce qu'on a besoin se trouve en Jésus-Christ. Alors, il y a des gens dans la ville de Colosse à qui Paul a écrit cette lettre. Colosse, qui était une ville en Turquie moderne, qui était proche de deux autres villes, une église qui avait été fondée probablement par un homme qui s'appelle Epaphras, qui était un collègue du ministère de Paul. Il parle dans cette lettre combien il l'aime, et Epaphras, combien il aime cette église. Et il était allé voir Paul, il s'était rendu voir Paul probablement pour lui faire part qu'il y avait des problèmes, il y avait des faux enseignements ou des hérésies qui se promenaient dans l'église de Colosse. Paul, lui, était emprisonné, probablement à Rome, mais il a écrit cette lettre-là à des frères et des sœurs qu'il n'avait pour la plupart jamais rencontrés, qu'il n'avait jamais vus physiquement. Cependant, son amour pour eux transpire à travers cette lettre-là. Et si vous la relisez d'un bord à l'autre, on voit l'amour que Paul a pour ses frères et sœurs. Mais il les met en garde. Il disait au verset 4, Colossiens 2, 4, « J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Ou au verset 8, « Que faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde. » Alors, une des influences qu'il y avait, c'était un genre de retour au judaïsme. Oui, Jésus, on a besoin de Jésus pour être sauvé, mais en plus, il faut rajouter toute la loi de Moïse. Et pour être vraiment fidèle à Jésus, Jésus, c'était un juif, Jésus, lui, a été fidèle à la loi de Moïse. Vous, maintenant, chrétiens, vous devez obéir à la loi de Moïse avec ses sacrifices. Non, il ne disait pas avec les sacrifices, mais avec les animaux purs et impurs à manger, avec le jour du sabbat à observer, avec les fêtes à observer, avec la circoncision et probablement d'autres choses aussi que j'oublie. Or, Paul nous dit de façon très succincte, c'était quoi le rôle de l'Ancienne Alliance? C'était quoi le rôle de ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'elles avaient été données? Dans Colossiens 2, 16, il dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. » Donc, de façon très succincte, Paul il nous dit, puis je vais parler en grand détail, que l'Ancienne Alliance avait été donnée comme un précurseur de la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance faite avec Moïse, les lois de Moïse, le temple, les sacrifices, les lois alimentaires, ils avaient été donnés comme des précurseurs de Jésus-Christ. Que c'était comme une ombre, mais la réalité, c'est Jésus. Ou le mot que Paul utilise, c'est le corps. Dans Louis II, c'est traduit, mais le corps, c'est Christ. Ça veut dire, donc, moi, il y a une ombre sous moi. Donc, l'ombre, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est le corps qui crée l'ombre. Alors, Paul est en train de dire, tout ça, l'Ancienne Alliance, les lois alimentaires, le sabbat, les fêtes, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps qui fait l'ombre, la réalité, c'est Jésus-Christ. Alors, ces lois, au niveau de la nourriture, au niveau des fêtes, au niveau d'observer le sabbat, tout ça, c'était que l'ombre des choses à venir. Les lois alimentaires, Dieu leur avait donné au peuple d'Israël pour qu'ils soient distincts des autres peuples. Dans Lévitique, on voit qu'il répète souvent « Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez mis à part, vous serez différents des autres peuples. » Et comme croyants, notre distinction du monde n'a pas besoin d'être par des lois alimentaires, le fait d'observer le sabbat ou les choses qui avaient été données parmi les Juifs, mais l'éthique de Christ qu'on voit particulièrement dans le Nouveau Testament, c'est l'amour, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, d'aimer notre prochain comme soi-même. C'est, oui, d'être différent, de traiter durement notre corps dans le but de plaire à Dieu, d'être sanctifié par l'œuvre de l'Esprit qui agit en nous. Et un autre passage qui parle bien de ça, des sacrifices, c'est Hébreux 9. Vous pouvez tourner avec moi si vous voulez, dans l'Épître aux Hébreux, qui se situe un peu plus loin que Colossiens. Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. Si vous êtes à Jacques, 1 de Pierre, vous êtes trop loin. Donc, Hébreux 9, les versets 8 à 10. Donc, l'auteur anonyme de l'Épître aux Hébreux est en train de parler du fait que il parle du tabernacle, du temple. Il parle de l'Ancien Testament avec le lieu saint, le lieu très saint. Et il dit, « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte. Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. » Parfois, le langage qui est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est question d'une alliance éternelle. Et ça peut nous sembler un peu mélangeant. Donc, est-ce que c'est une alliance qui était éternelle ou c'est une alliance qui n'était pas éternelle? Mais probablement que le sens de ce mot-là, éternel, c'est tant aussi longtemps que ça dure jusqu'à ce que Dieu amène une nouvelle alliance. Et c'est ce qu'il a fait par Jésus. Sa résurrection, le don de son esprit ont inauguré la nouvelle alliance. Et le sabbat n'a plus besoin d'être observé. Le repos ne se trouve plus dans un jour, mais dans une personne. Le sabbat, c'était pas mal. Loin de là, Dieu était très sévère et à propos du fait d'observer le sabbat. C'était une façon de protéger les esclaves et les serviteurs et les animaux du fait qu'ils soient trop, qu'on abuse d'eux en ce qu'ils travaillent. Au moins, ils avaient une journée par semaine pour se reposer. Et c'était une façon d'imiter le caractère de Dieu qui s'était reposé après 6 jours de travail. Pour nous, aujourd'hui, le grand rappel que ça nous donne, le sabbat, ce principe-là, c'est l'expression qu'on fait confiance à Dieu qui va prendre soin de nous, même si on ne passe pas tous les jours et toutes les heures qu'on pourrait à travailler. Le Seigneur nous invite à avoir un rythme de travail et de repos. Si on est paresseux, il nous invite à travailler. Si on veut travailler tout le temps, bien notre corps et notre tête, il y a une limite qu'on est capable de prendre. Puis que ça soit 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, que ce soit des moments spécifiques mis à part pour le repos du corps, le repos de l'esprit, puis se nourrir d'une façon particulière de la parole de Dieu. On vit ensemble en Église. Vous avez congé aujourd'hui, vous ne travaillez pas, du moins ce matin. Donc, on est ensemble pour adorer le Seigneur, pour entendre sa parole. On en a besoin. Et on voyait les pharisiens qui mettaient l'emphase sur la lettre de la loi au lieu de l'esprit de la loi. On va en reparler tantôt par rapport au sabbat. Mais toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité, le corps maintenant, c'est Christ. Je continue vers notre deuxième point qui nous parle du fait qu'on est libéré du mysticisme. Verset 18, Paul dit que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. Donc, Paul est en train de dire que personne ne vous prive de la victoire. C'est un peu comme l'image d'un coureur ou un athlète qui, là, c'est les Jeux olympiques, qui finit sa course de patin, il finit en tête, il a gagné la médaille d'or. Sauf que là, il y a quelqu'un qui dit non, disqualifié, on donne ta médaille d'or à quelqu'un d'autre. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ça arrive. Puis surtout dans cette discipline-là. Mais là, Paul, il dit que personne ne vous disqualifie, ne vous prive de la victoire par cette obsession-là ou ce désir de connaître Dieu par le mysticisme, par des genres d'expériences spirituelles. Et il dit que ça, c'est à cause de l'humilité. Au début du verset 18, que personne, par son goût d'une fausse humilité ou sous une apparence d'humilité ou pour encourager l'humilité. Donc, en surface, ça peut avoir de l'air vraiment d'une belle chose. L'humilité, c'est une des choses qui décrit le mieux notre Seigneur Jésus-Christ, puis qui nous appelle à marcher dans cette humilité, dans le service pour les autres. Mais avec cette humilité, il y avait un culte des anges. Oh oh, là, on n'est plus dans le christianisme. De quoi il est question, le culte des anges? Bon, ça pourrait être deux choses. Soit se joindre aux anges qui rendent gloire à Dieu. Donc, le culte des anges, les anges donnent un culte et on se joint aux anges par des visions. Il dit au verset 18, là, la deuxième moitié, « Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil, sous l'effet de ses pensées toutes humaines. » L'autre possibilité, c'est que Jésus ou Dieu était tellement saint, tellement majestueux, et que nous sommes tellement pécheurs, qu'on ne peut pas aller directement à Dieu. Parce qu'il est tellement puissant, je suis tellement pécheur, j'ai besoin de passer par des anges qui vont m'aider, qui vont, eux, apporter mes prières ou apporter ma louange à Dieu. Ça paraît humble. Je suis pécheur, Dieu est tellement saint, j'ai besoin d'un intermédiaire pour accéder à Dieu. Je n'ose pas aller à Dieu directement. Je n'ose pas aller à Jésus. Mais est-ce qu'on a besoin de médiation pour aller à Jésus? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour être entre nous et Dieu? La Bible est claire à ce niveau-là. 1 Timothée 2,5 nous dit, « En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. » Il n'y a qu'un médiateur, c'est Jésus. De dire, « Non, je suis trop pécheur pour aller à Jésus », ça, c'est de la fausse humilité. On n'est plus dans la foi chrétienne, on n'est plus dans une foi biblique. Donc, on a besoin de se voir tel qu'on est, pécheur. Mais qu'à la croix, Jésus nous dit que si on place notre confiance en lui, tous nos péchés sont lavés. Et on va reparler un petit peu tantôt. Dans Hébreux, encore Hébreux 7, 24, 25, nous parle de Jésus comme prêtre, comme intermédiaire entre nous et Dieu. Les prêtres avaient cette fonction-là. Ils sont l'intermédiaire entre la divinité et les gens ordinaires. Et Jésus, l'Épître aux Hébreux nous dit clairement, il est notre grand prêtre. Il est celui qui est venu être notre grand intermédiaire entre Dieu et nous. Hébreux 7, 24, 25 dit, « Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas, contrairement à la descendance d'Aaron, que ça se transmettait, Jésus demeure éternellement. Et son rôle de prêtre n'est pas passé à ses descendants. Jésus, il est prêtre pour toujours. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Un peu plus loin dans Hébreux, encore Hébreux 10, versets 18 à 23, dit, « Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. » En parlant du sacrifice de Jésus. « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, comme on l'a chanté tantôt. Cette route nouvelle et vivante, Jésus l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Il n'y en a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et malheureusement, c'est une erreur qui est arrivée dans l'histoire de l'Église après quelques siècles et qui perdure dans l'enseignement de l'Église catholique. On voit Marie ou différents saints comme des intermédiaires entre nous et Dieu. Jésus, soit Dieu est trop occupé ou il est trop saint, ou Jésus c'est un homme, Marie c'est une femme, elle a un instinct maternel, elle peut mieux s'associer à mes souffrances, à ce que je vis. Donc elle est bien placée pour compatir à mes péchés. Elle était humaine, elle était une maman, elle peut bien me comprendre, donc je veux accéder à Dieu par Marie ou par d'autres saints. Mais Paul, il nous dirait, on est dans la fausse humilité, puis on est en train de dépouiller la gloire qui revient à Jésus-Christ. Lui qui est venu être le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Celui par qui, on vient de lire dans Hébreux, on peut s'approcher du trône de grâce. Et si on s'approche d'un autre trône, du trône de Marie, du trône de différents saints ou d'intermédiaires angéliques, comme les Colossiens faisaient, on est en train de dérober la gloire de Dieu. On est en train de dépouiller Christ de la gloire qui lui revient à lui seul. Une autre façon que le mysticisme pourrait se vivre parmi nous, puis pourrait être une tentation, c'est de mettre un accent que ma santé spirituelle ou que les vraies expériences spirituelles les plus profondes vont venir par des visions ou par des rêves. Remarquez que ce n'est pas impossible que Dieu communique par des rêves, des songes ou des visions. Et certains d'entre vous en avez vécu à des moments critiques dans votre vie. Mais ce n'est pas la manière principale par laquelle Dieu y communique. Sa principale manière de communiquer, c'est à travers la parole infaillible qu'il nous a donnée. Les rêves ou les visions qu'on peut avoir peuvent être des manifestations simplement biologiques. On rêve tous, puis ça, c'est la façon que notre cerveau gère l'information de la journée. Et souvent, ce à quoi on va avoir pensé pendant la journée, on va y rêver. Donc, on connaît le principe des rêves, mais on peut expérimenter des choses peut-être qui peuvent sembler plus, encore vraiment plus réelles, des visions, des voix. Ça peut être produit par un déséquilibre au niveau biochimique ou émotionnel. Donc, il y a comme trois options. Ça peut être quelque chose de biologique, de biochimique. Les rêves, normalement, c'est ça. Ça pourrait aussi être une manifestation démoniaque. Satan peut se présenter comme un ange de lumière, comme Paul nous dit dans Galates. Puis, je pense qu'il y a certaines religions qui ont été fondées sur des visions d'anges qui étaient probablement Satan déguisé ou un de ses démons pour amener les gens dans le mauvais chemin. Mais la troisième possibilité, c'est que le Seigneur soit vraiment en train de nous parler par un rêve ou par une vision. Cependant, il faut être prudent justement à ce niveau-là, parce que les rêves ou les visions qu'on peut avoir n'ont pas le même degré de certitude que la parole. Si, par exemple, si quelque chose dans nos rêves ou nos visions va à l'encontre de la volonté de Dieu ou de la sagesse de Dieu telle que mentionnée dans sa parole, alors, je peux être catégorique, ça ne vient pas de Dieu. Et peu importe à quel point ce rêve ou cette vision peut nous avoir semblé vraiment réel, que non, c'est vraiment Dieu qui me parlait, il me disait que c'était correct que je quitte ma femme pour aller vers une autre femme. C'était correct, Dieu il me l'a dit, qu'elle allait prendre soin de ma femme, puis que cette autre femme-là, elle est pauvre, elle a besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. Il m'a dit, va prendre soin d'elle. Mais c'est possible qu'on puisse vraiment avoir, des fois on rêve, quelque chose, notre cœur le veut, donc on va dans cette direction-là. Mais là, clairement, frère, non. Bon. Ben, c'est possible que Dieu communique avec nous par des rêves, par des visions. Mais la manière principale par laquelle il nous parle, c'est par sa parole. Si on veut connaître le Seigneur Jésus, si on veut connaître la volonté de Dieu, il nous a donné tout ce dont on a besoin pour la vie, pour la sainteté, dans sa parole. Donc le Seigneur peut nous donner des expériences miraculeuses, mais ce n'est pas la façon régulière par laquelle il nous parle et veut nous communiquer sa volonté. Donc, faisons attention à tout mouvement ou toute tendance, même parmi nous, qui voudrait dire « Ah, oh, j'ai le goût de goûter à une vision ou à un rêve ou d'avoir Dieu qui me parle, comme si ça, c'était une expérience plus riche que le fait d'être uni en Christ, par qui Paul nous dit « on a déjà tout pleinement en lui ». Un autre type d'intermédiaire qu'on pourrait avoir, d'autres remplaçants de Christ. Ah non, je vais sauter ça. Je regarde mon temps. Ça sera pour une autre fois. Mais une autre forme de mysticisme qu'on pourrait avoir, c'est de laisser nos émotions devenir notre centre d'interprétation de la réalité. Donc, laisser nos émotions déterminer ce qui, pour nous, est la réalité. Le Seigneur nous a donné des émotions. C'est pas quelque chose de mal ou qui provient de la chute. La Bible nous parle que Dieu est un Dieu émotif, dans le sens qu'il vit des émotions lui aussi. La colère. Dieu est en colère contre le péché, contre la rébellion, contre l'injustice. Dieu est un Dieu qui est peiné aussi. Il vit la tristesse. Il peut être on peut attrister le Saint-Esprit en désobéissant. Le Seigneur était tellement, j'imagine, peiné par notre situation pécheresse qu'il a décidé d'envoyer Jésus pour sauver ceux qui allaient élire. Donc, nos émotions ne sont pas nécessairement, par contre, une juste représentation de la réalité. Par exemple, si quelqu'un me coupe en auto, puis je dis, « Ah, puis là, je suis fâché. » Je dis, c'est clair qu'il a fait exprès. Il a tellement fait exprès, il m'a coupé. C'est juste un nanana. Puis là, ma colère est réelle. Je me rends à l'église, là, mais là, je suis en retard. Puis là, la personne, puis là, parce qu'elle m'a coupé, là, je suis derrière le feu rouge. Mais là, je suis en retard. Je suis au son ce matin où je dois m'occuper de la pouponnière. Seigneur, tu sais, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Mais bon, je suis en colère. Puis là, j'arrive, finalement, j'arrive à l'autre personne, puis ah, c'était quelqu'un de l'église. Oups! Puis, ah ouais, étais-tu conscient que tu m'avais coupé? Ah non, que je t'ai pas vu. Mon enfant, il pleurait en arrière, puis, etc. Donc, oh, on était vraiment en colère, on était certain que c'était délibéré, que la personne était un... Mais, bon, notre colère n'était pas une juste évaluation de la réalité. Pourtant, elle parle de notre cœur. Nos émotions nous parle de notre cœur. Ou un collègue qui arrive en retard pour une réunion, pour un travail, puis mais il était pris dans le trafic, puis il était allé avant acheter des cafés pour tout le monde. Puis c'est pour ça qu'il est en retard. C'est pas parce qu'il aime pas l'équipe, c'est parce qu'il aime l'équipe. Donc, il y a trois mauvaises façons de gérer nos émotions. La première mauvaise façon de gérer nos émotions, c'est de les ignorer. Donc, moi, j'avais tendance à être comme ça un peu avant. De juste pas me demander comment est-ce que je me sens. Faire comme si de rien n'était. Puis je pouvais être irritable, je pouvais être triste, je pouvais avoir peur. Mais je faisais fi de ça. C'était comme... Moi, je suis pas un gars émotif, fait que moi, j'ai pas d'émotion. Pourtant, les émotions étaient en train de me parler de ce que mon cœur ressentait. Donc ça, c'est la première mauvaise façon de gérer nos émotions. La deuxième, qui est probablement pire, c'est les étouffer ou les refouler. J'ai une peur, j'ai une crainte, j'ai de la colère, j'ai de la tristesse. Non! Je le vis pas. Non! Je le vis pas. Non! Je le vis pas. Puis à un moment donné, ça va exploser ou bien on va vivre dans un état où le Seigneur, il veut nous parler de choses qu'on a sur notre cœur puis qu'on lui laisse pas avoir accès à comment notre cœur se sent. Donc, ignorer nos émotions, c'est pas une bonne façon de les gérer. Les étouffer ou les refouler, c'est pas une bonne façon. La troisième, c'est les laisser nous dominer. Je ressens de la colère. Ah! Je ressens de la peur. Je m'abandonne à la peur. Je ressens de la peine. Je me livre à la peine. La bonne façon de gérer nos émotions, c'est de les questionner, de voir, Seigneur, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Est-ce qu'on a une crainte qu'on doit abandonner au Seigneur? Est-ce qu'on a un sentiment d'injustice qu'on doit demander au Seigneur de prendre? Tu es celui qui va faire justice et je choisis de pardonner. Est-ce qu'on a de la tristesse? qu'on a besoin d'apporter au Seigneur, puis lui demander, lui faire part de notre cœur, de notre tristesse. Alors ça, c'est simplement bon, la bonne façon de gérer nos émotions. Cependant, on peut ressentir différentes choses par rapport à Dieu. Et c'est là qu'on est dans, je fais lien avec le mysticisme, donc laisser quelque chose qui n'est pas solide nous contrôler. On peut sentir que Dieu est loin. On peut sentir que Dieu n'est pas concerné par ma vie. Peut-être que tu ressens que Dieu t'a abandonné dans ta souffrance ou ton angoisse. Peut-être que tu sens que Dieu ne peut pas te pardonner quelque chose que tu as fait. Et si on laisse ces sentiments définir pour nous la réalité, on va s'éloigner du Seigneur. Parce que Dieu, il nous appelle à placer notre confiance dans sa parole et dans ses promesses, et non pas dans nos sentiments ou nos impressions. La bonne façon de gérer nos émotions, c'est de les questionner, de les tester à la lumière de la vérité de Dieu. Nous savons que le Seigneur dit vrai, qu'il est fidèle, qu'il est avec nous, qu'il est bon, que ses promesses sont dignes de confiance. Et même si on ne le ressent pas, Dieu nous appelle à nous confier en lui, à faire preuve de foi, justement. Seigneur, je ne me sens pas comme ça, mais je crois, aide-moi à placer ma foi en toi, que tu es fidèle à tes promesses, que tu es fidèle à ta parole, que tu es là avec moi en ce moment, dans ma détresse, même si je ne te sens pas. Mais je crois en ta parole qui me dit que, comme Jésus m'a dit, je suis avec vous tous les jours. Merci, Seigneur, de ce que tu es là. Pardonne-moi si j'ai quelque chose contre toi qui fait que je ne peux pas te ressentir. Mais bon, ça va faire de nous des gens désespérés si nous ne ressentons pas la joie ou la paix de Dieu avec les émotions qu'on peut vivre. Une forme de mysticisme pour nous dangereuse, qui n'est peut-être pas aussi flagrante que de prier les anges ou de rechercher des rêves ou des visions, ce serait de laisser nos émotions déterminer ce qui pour moi est vrai ou est faux. Notre meilleur baromètre de vérité, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nos émotions viennent en conflit, bien, apportons nos cœurs au Seigneur. Affirmons par la foi que nous voulons placer notre confiance dans sa parole, dans ses promesses et en lui. Ce que le Seigneur nous appelle à faire au verset 17, ce que certains Colossiens ne faisaient pas, en allant dans des apparences d'humilité qui en fait les montaient d'orgueil, il dit au verset 19, « Il ne s'attache pas à celui qui est la tête. » La réponse pour nous à nos tendances légalistes ou mysticistes, c'est de s'attacher à celui qui est la tête du corps. Et ça, c'est Jésus-Christ. Il y a un autre passage plus tôt dans Colossiens qui parle du fait que Jésus est la tête. Oui, c'est ça au verset Colossiens 1, 18. Jésus, il est la tête du corps qu'est l'Église. Donc, ce qu'on doit faire, c'est s'attacher à la tête, s'attacher à Jésus. Et Paul nous dit, c'est d'elle, c'est de la tête, c'est de Jésus que tout le corps bien nourri, solidement assemblé, par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. La croissance spirituelle vient du fait d'être attaché à Jésus. Pas de suivre des lois, comme je m'apprête à le mentionner, ou pas suivre des règlements, ou pas de chercher des rêves, des visions, de se laisser dominer par nos émotions. De la même façon qu'un un être humain ou un être vivant, bon, on peut vivre sans un bras. Si on est avec un bras en moins, ou qu'on a un accident, des soldats ou des gens qui sont allés à la guerre, qui ont pilé sur une mine, qui ont perdu une jambe ou deux jambes, on peut vivre bon, sans différents membres, mais une fois qu'il n'y a plus de tête, il n'y a plus de vie. Si vous voulez la vie en Jésus, ça vous prend la tête de l'Église. Ça vous prend d'être unis à Jésus. Paul ne l'a pas dit exactement de cette façon-là, mais on a besoin d'être unis à la tête. Si on n'a pas de tête, ben, il n'y a pas de vie. J'embarque maintenant dans le troisième point. On a vu C'était quoi le rôle de l'ancienne alliance pointée vers Jésus? On a vu qu'en étant unis à Jésus, on peut être libéré de nos tendances mysticistes. Et troisièmement, unis à Jésus, on peut être libéré du légalisme. Alors, j'aimerais vous présenter trois types de légalisme. Donc ça, c'est une réflexion que j'ai pas eue toute moi-même. Cette catégorisation, elle vient d'un excellent théologien évangélique, R.C. Sproul, qui est décédé, ça fait moins de 2 mois. Un homme très influent, un excellent vulgarisateur de la parole de Dieu, des doctrines de la grâce. Le ministère auquel il était associé, Ligonier Ministries, des enseignements, excellents enseignements, si vous voulez aller voir. Mais donc, ces trois types de légalisme, ça vient de lui, de R.C. Sproul. Donc, le premier type de légalisme, c'est celui où la vie chrétienne n'est qu'une série de choses à faire et à ne pas faire. Donc, peut-être que pour toi, la vie chrétienne, c'est ça. Il y a quelques années, j'étais allé faire une visite, je pense, avec Laura. On est allé visiter une jeune femme, puis elle avait appelé, je pense, à l'église, puis on était allé la visiter. Elle cherchait à savoir c'était quoi la liste de choses à faire et à ne pas faire dans notre religion. Elle cherchait un genre de guide pour diriger sa vie, mais qui allait se résumer par une liste de choses à faire et ne pas faire. Puis on lui a expliqué que c'était beaucoup plus glorieux que ça, l'Évangile. Mais le Seigneur n'avait pas ouvert ses yeux encore. Bon, j'ai pas eu de nouvelles d'elle. Peut-être que le Seigneur a ouvert son cœur à ce point-ci. Mais peut-être que c'est l'impression que vous avez des fois par rapport à ce que Dieu vous demande, ce à quoi il vous a appelé comme chrétien. Ou peut-être que vous n'êtes pas certain si vous voulez devenir chrétien, si vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus. Puis peut-être que vous avez l'impression que la vie chrétienne, c'est juste ça. C'est juste une liste de choses à faire et à ne pas faire. Mais ça, c'est une théologie du salut qui est très déficiente. C'est une théologie du salut par les œuvres. Peut-être que c'est quelque chose que c'est conscient au niveau intellectuel ou peut-être que c'est quelque chose qui est inconscient. Mais on peut croire que l'assurance de notre salut ou la certitude du fait d'être aimé de Dieu, ça dépend de notre obéissance. On peut avoir tendance peut-être à aller jeûner ou se punir pour expier nos péchés. J'ai fait du mal, je dois me punir. J'ai fait du mal, je vais compenser. Je vais jeûner pour compenser ou je vais donner aux pauvres ou je vais donner un montant de plus à l'église cette semaine ou je vais aller aider mon voisin ou je vais appeler ma mère que je n'ai pas appelé depuis 6 mois. Là, je vais le faire. Bon. Donc, chercher à compenser le péché par le bien ou chercher à s'auto-punir, on est loin de l'évangile de la grâce, là. La punition, on n'a pas besoin de la porter. Jésus a porté la punition pour nos péchés. Le châtiment pour nos péchés a été porté par Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que des fois, le Seigneur ne va pas vouloir nous corriger ou nous discipliner. Comme un enfant lorsqu'il fait quelque chose de mal, puis qu'on le met dans le coin, ou qu'il y a une conséquence, il n'est pas en train d'expier ses péchés. C'est une correction pour qu'il apprenne à aller dans le droit chemin. Alors des fois, le Seigneur, il va nous donner des corrections. Pas pour expier nos péchés, pas pour que par notre souffrance, alors on va être capable d'arriver à ce que nos péchés soient pardonnés. Non, ça c'est tout couvert à la croix. Le Seigneur, il nous invite, si on a péché, à confesser notre péché à lui. Peut-être le confesser à un frère, une sœur, prier ensemble. Mais je veux reculer à ce que Paul il disait un petit peu plus tôt dans Colossiens. La paix, la réconciliation avec Dieu ne se fait que par Christ, par son sang versé sur la croix. Colossiens 1, verset 20. Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, Jésus, par son sang versé à la croix. Tout est réconcilié par Jésus. Si tu veux te réconcilier avec Dieu par tes propres moyens, tu n'y arriveras pas. Et c'est une des choses que Dieu n'aime pas de nous, qu'on veut mériter notre propre salut, qu'on veut mériter sa grâce et sa bonté. Il dit, non, tu as juste à la recevoir. Mon fils l'a payé pour toi si tu veux le recevoir. N'y rajoute rien. Paul continue, Colossiens 1, 21 et 22. « Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées et vos œuvres mauvaises, il, Jésus, vous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. » Cher ami, il n'y a rien que tu peux rajouter au pardon que Jésus nous offre à la croix. Dans Galates, Paul le dit, il dit même, Galates 2, 21b, « Si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » C'est vrai, ça. Si c'est par mes bonnes œuvres que je peux mériter la grâce de Dieu, alors pourquoi est-ce que Jésus a souffert à la croix? Galates 5, 4, Paul dit, « Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Wow! Alors, attention à nous qui pouvons avoir tendance à s'approcher de Dieu sur la base de nos mérites, sur la base de « j'ai eu une bonne semaine » ou « là, ça fait longtemps que je n'ai pas commis tel péché, alors là, maintenant, je peux m'approcher de Dieu. » Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut s'approcher de Dieu par la croix de Christ et par rien d'autre. Ça veut dire que peu importe comment bon tu te sens, tu n'es pas assez bon. Christ est le seul qui est assez bon pour te mériter l'accès à Dieu. Et deuxièmement, peu importe comment sale tu te sens, il n'y a rien qui est trop sale pour être lavé et nettoyé complètement par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, qui lui demandent, « Seigneur, je suis sale, je suis tellement sale, je vois que je mérite pas pantoute de venir à toi. » Aie pitié de moi. Pardonne-moi, je t'en prie. Je crois que Jésus, que par sa mort, je peux être pardonné de mes péchés. Et ça, c'est la seule assurance qu'on peut avoir. Alors, peu importe que tu penses que tu peux t'approcher de Jésus par toi-même, dans ton orgueil, non. Mais si tu penses que tu es trop sale pour t'approcher de Dieu, eh bien, il y a un espoir pour toi. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus a souffert à la croix. Pour que toi et moi, et toutes les personnes sales de ce monde, on puisse avoir accès au fait d'être réconcilié avec Dieu par la mort de Jésus. Alors, le deuxième type de légalisme, maintenant, c'est de respecter la lettre de la loi sans en respecter l'esprit. Donc, je m'explique. La lettre de la loi, c'est la forme extérieure. Puis l'esprit, c'est la raison derrière pourquoi on a fait cette loi-là. Par exemple, nos limites de vitesse. Donc, si on va sur une route que la limite, c'est 70, ça veut dire que, bon, la limite, c'est normalement 70 plus un certain nombre, parce qu'au Québec, ça fonctionne comme ça. Mais s'il y a des conditions dangereuses, s'il y a de la neige, de la glace, du brouillard, un blizzard, et tu te dis, j'ai le droit de rouler à 70 ou sur l'autoroute à 100 dans ce genre de conditions-là. On a eu des carambolages à Montréal cette semaine. Bon, peut-être qu'on collait trop, peut-être que bon, c'est inévitable. Mais donc, la lettre de la loi dit, tu as le droit de rouler à la limite de vitesse. Mais l'esprit de la loi, le but c'est la sécurité, va dire, non, tu ralentis en fonction jusqu'à ce que ça soit sécuritaire. Un autre exemple, les feux rouges. Bon, ça aussi, ça sert à la sécurité. Bon, que tout le monde puisse passer et qu'on soit en sécurité. Mais on a tous entendu des histoires d'une femme qui est en train d'accoucher, puis son mari, il conduit à l'hôpital, puis c'est le plein milieu de la nuit, puis il y avait un monsieur à l'église de Hull, d'où je viens. Lui, même, il ne dépassait jamais la limite de vitesse. Mais une fois que sa femme a accouché, en plein milieu de la nuit, il a brûlé un feu rouge. Puis il dit, « C'est correct! » Je sais que c'était correct. Puis on voit dans des films, il y a même, « Oh, la police te tasse, oh, brûler le feu rouge, ma femme accouche. OK, je vous ouvre le chemin. » Donc, les policiers comprennent l'esprit de la loi. S'il n'y a personne, bon, qu'on brûle le feu rouge, je ne dis pas parce que je suis en retard à l'église. Ou je suis en retard au travail. Non, ben on a une réelle urgence. Donc là, je pense que c'est dans l'esprit de la loi, puis les policiers le comprennent. Non, non, c'est correct. Même, on va t'accompagner. On va t'ouvrir le chemin. Vous allez pouvoir vous rendre à l'hôpital. Mais les pharisiens, c'est ce qu'ils avaient tendance à faire, eux. À être pris sur la lettre de la loi plutôt qu'en saisir l'esprit. Le respect du sabbat pour les pharisiens était quelque chose de très pointilleux et on regardait partout. Et quelqu'un qui se disait rabbi comme Jésus, puis que ses disciples, ils mangeaient, ils glanaient le jour du sabbat, que Jésus a fait des miracles, des guérisons le jour du sabbat. Vous n'étiez pas contents. Mais Jésus, il leur a dit, ça c'est dans Matthieu 12, puis dans l'Évangile selon Marc, la classe aussi, on a vu ce passage-là, passage parallèle. Jésus dit, « Si vous saviez ce que signifie, je désire la bonté et non les sacrifices. » Une autre forme de légalisme, donc justement cette deuxième forme-là, c'est d'être pris sur la lettre de la loi, le détail, la règle exactement, au lieu de la raison pour laquelle elle nous a été donnée. Troisième type de légalisme, et probablement celui auquel on pense le plus, c'est celui de rajouter des lois humaines à celles de Dieu. Et c'est ça qui se passait à Colosse. Je reviens dans notre texte dans Colossiens 2, verset 20. Paul y dit, essentiellement, « Vous êtes morts avec Christ aux éléments du monde, que ce soit des forces spirituelles ou les lois à obéir. Vous êtes morts avec Christ à ça. Pourquoi est-ce que vous retournez vous soumettre à des règles comme si vous viviez encore dans le monde, comme si vous étiez non-chrétien? Des règles comme « ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ». Paul dit, ça, ces choses-là, c'est destiné, ça concerne que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. La viande que tu manges, ce que tu manges, ce que tu bois. Une fois que tu le manges, c'est digéré, c'est parti. Paul, il répète, il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Alors ça, c'est quelque chose que nous, on peut avoir tendance à faire aussi. Et ça peut partir de bons principes bibliques, mais que ça devient... Et ça peut être quelque chose que par conscience personnelle, il y a des zones où, pour moi, je ne vois pas là, moi, c'est péché. Mais je ne vais pas prétendre parce que pour moi, je suis convaincu dans ma conscience que c'est péché d'aller au cinéma ou d'avoir une télévision ou de jouer aux cartes ou de danser ce type de danse-là. Moi, je suis convaincu que moi, je ne devrais pas faire ça. Dans ma conscience, je suis en état de péché. Mais je ne peux pas l'imposer ou juger. Ah ouais, non, le monde de ces églises-là, eux, c'est sont pas spirituels parce qu'ils font pas telle chose. Ou, ah, ouais, telle personne. Ou, ah, les jeunes aujourd'hui, ils font ça. Ou, ah, les vieux sont stickés sur leurs affaires. De se juger les uns les autres, de se mépriser pour des questions de conscience. Ça pourrait être au niveau de la nourriture. Certains chrétiens ne veulent pas manger halal. Parce que c'est une forme de viande sacrifiée aux idoles ou cachère. Je dis, ben, c'est pas le vrai Dieu. Bon, en tout cas, je ne sais pas comment vous le concevez ou je vais boire aucun alcool. C'est correct. Et ça peut être une bonne chose. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Aujourd'hui, ça pourrait être au niveau de acheter bio ou acheter équitable. On est de plus en plus conscient que, bon, il y a beaucoup de pesticides, puis c'est très dangereux pour la santé des gens qui travaillent dans des pays où il n'y a pas grand loi. Donc, quand on achète bio, on aide à protéger des gens vulnérables. Donc, les chrétiens et les non-chrétiens décident, je veux juste acheter des fruits et légumes bio, surtout tel fruits et légumes, ou du café juste équitable, ou des choses comme ça. Puis c'est des vraiment bons principes, c'est basé sur quelque chose de biblique, de prendre soin du faible, de vouloir protéger celui qui est moins dans une situation, une moins bonne situation que moi. Mais je peux pas vraiment l'imposer à quelqu'un qui est moins fortuné que moi ou plus fortuné que moi. Non, tu devrais vraiment acheter toujours bio parce que jugement, attaque, etc. Ça pourrait être nos types de lois aussi. Ça pourrait être au niveau du code vestimentaire à l'Église ou dans toute la vie. Bon, on est appelé à faire preuve de modestie. Mais la Bible ne nous dit pas combien de centimètres au-dessus, en dessous du genou. Est-ce qu'on peut porter nos pantalons, nos jupes, etc. Fait qu'on est appelé à la modestie, mais on va pas sortir la règle. Surtout pas ici, là. Ça peut être le type de musique ou de chanson qu'on écoute. Ah non, ça, je te. Puis je pense qu'il y a des zones grises, mais des fois, ça peut venir tellement gris, vraiment foncé, là, que pour tous les chrétiens, il y a certaines musiques que moi, je pense que tu ne devrais pas écouter ça. Je pense que ce n'est pas vraiment édifiant. Mais ça peut être nos préférences au niveau de ce qu'on chante à l'église. Ah, les hymnes, les chants traditionnels, ou une équipe musicale simple, ou ah, la louange rock. Ça, c'est. Pas de louange rock, je ne peux pas adorer Dieu. Ou s'il y a de la louange rock, je ne peux pas adorer Dieu. On est en train d'ajouter des choses qui. On dit, ah non, je ne suis pas capable d'adorer Dieu dans cette situation-là. Donc, ne rajoutons pas des fardeaux sur nous-mêmes ou sur les autres qui ne viennent pas de Dieu. Soyons pleinement bibliques, rigoureusement bibliques. Mais on n'a pas la liberté d'imposer aux autres. On peut partager notre opinion, mais on peut pas. On est appelé si. Dans une conscience saine devant le Seigneur, notre frère ou notre sœur décide autrement, bien, on doit leur laisser ça. On doit laisser ça entre eux et Dieu. En conclusion, j'aimerais terminer avec le fait que chercher l'obéissance, ce n'est pas du légalisme. Et dès la semaine prochaine, où notre frère René Fré va venir prêcher la semaine prochaine, je sais pas si vous avez vu dans votre bulletin, donc on a. René qui va venir prêcher la semaine prochaine. Dans 3 semaines, ça va être Dominique Guichard aussi. Donc, j'ai hâte de pouvoir entendre ça. Mais Paul, il va nous appeler à Colossiens 3:5, faire mourir en nous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Il parle au verset 8, renoncez à la colère, à la fureur, la méchanceté, la calomnie, les grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. C'est pas du légalisme que de chercher à être obéissant au Seigneur, de chercher à vivre une vie qui l'honore, une vie de sainteté. On se rappelle que même dans l'Ancien Testament, Dieu a sauvé son peuple d'abord d'Égypte et ensuite il leur a donné sa loi. Et c'est la même chose avec nous. Dieu nous sauve par la mort et la résurrection de Jésus-Christ et ensuite il nous donne sa loi pour notre bien et pour qu'on puisse refléter son caractère. Luc 1:6 nous présente Zacharie et Élisabeth comme des personnages exemplaires à cause de leur obéissance. C'est dit, tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ce n'est pas du légalisme que de chercher à être obéissant au Seigneur. C'en est lorsqu'on rajoute des choses au Seigneur ou lorsque on fait de notre obéissance la base de notre statut devant Dieu, au lieu d'être bien enraciné dans l'Évangile. Que ça vient juste parce que Jésus a accompli. On se rappelle de ce que Jésus nous a dit. Si vous aimez, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jean 14, 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. 24, celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Donc, Paul n'est pas en train de dire et pas en train de verser dans peut-être ce qui pourrait être l'autre extrême. On a d'un bord l'extrême du légalisme où je suis sauvé, où ma relation avec Dieu dépend uniquement de mon obéissance. Ou de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle l'antinomianisme. Nomianisme, nomos, ça veut dire la loi. C'est le mot pour loi en grec. Anti-loi. Donc, on est anti-loi. Ça, ce que ça veut dire, c'est une fausse application de l'Évangile qui dit, comme je suis sauvé, je n'ai pas besoin de chercher à plaire au Seigneur par ma vie. Jésus m'a sauvé, mes péchés, on est tellement heureux de savoir que Jésus a tout payé, tout, tout. Donc, j'ai même pas besoin d'essayer. Donc, j'ai même pas besoin de chercher à avoir une vie d'obéissance parce que Jésus a tout payé à ma place. Là, on est rendu déséquilibré aussi. On n'est plus dans les conséquences réelles de l'Évangile. Jésus nous offre le salut plein, parfait, total, auquel on n'a rien à ajouter, dans lequel on n'a rien contribué. Et on va être gardé par rien de nous, par la force, la puissance de Dieu à l'œuvre. Mais il nous appelle à le suivre, à marcher dans ses traces. Il veut renouveler l'image de Dieu en nous. Dieu veut produire Christ en nous pour sa gloire, pour notre bien, puis pour le bien de ceux qui nous entourent. Alors que le Seigneur vous garde et me garde et nous garde des dangers du mysticisme, des dangers du légalisme, et nous aide à nous accrocher fermement, à nous fonder en celui qui est la tête de l'Église, Jésus-Christ. Soyez bénis.